9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon week-end. Mes invités aujourd'hui sont Sylvie Matelil, directrice adjointe de l'IRIS. On va voir avec elle si les sanctions que l'Union européenne s'apprête à voter contre la Biélorussie peuvent servir à quelque chose ou pas. Bruno Gassio et Philippe Giangreco qui jouent les pâtes à l'ail au Café Ledgar. Et Jean-Marc Jancovici, ingénieur polytechnicien. Cela fait 25 ans qu'il travaille sur le dérèglement climatique. C'est lui qui a créé le bilan carbone qui est devenu une norme mondiale. Et avec Christophe Blain, qui est un petit génie de la bande dessinée, il viennent de publier chez Dargaud « Le monde sans fin », un chef-d'œuvre, le meilleur livre scientifique de l'année, pour comprendre tout, comprendre en fait, sur le réchauffement, sur les résolutions et les irrésolutions de la conférence du climat, COP26 comprise, et pourquoi Emmanuel Macron vient d'annoncer la construction de nouveaux réacteurs nucléaires.
Europe 1.
Bonjour Jean-Marc Jancovici.
Bonjour.
Dans Le Monde sans fin, vous expliquez très bien le problème de l'énergie. C'est notre armure d'Iron Man, dites-vous. Grâce à elle, on peut voler super haut, super vite, creuser super profond, porter ce que l'on veut, voir super loin, ne jamais avoir froid ni chaud. On peut détruire ce que l'on veut, communiquer avec qui l'on veut, quelle que soit la distance. En plus, ça ne coûte pas cher, seulement 5% de ce que l'on gagne. C'est pour ça qu'on ne peut plus s'en passer. Le problème, c'est que cette énergie, c'est du pétrole, du charbon et du gaz qui sont responsables de la grande majorité des émissions de CO2 qui provoquent le réchauffement climatique. Est-ce qu'on peut remplacer ces énergies fossiles par des énergies renouvelables ?
Ce qu'on essaye d'expliquer dans le livre, en fait, c'est que ce qui a fait le développement qu'on a coutume d'appeler économique ou industriel, parce qu'en fait c'est largement la même chose, même dans un pays comme la France qui croit qu'elle est après l'industrie, c'est l'avènement des machines à combustible fossile et pour être plus précis, de la machine à vapeur qui fonctionne au charbon et qui est encore aujourd'hui très répandue. Ça s'appelle une centrale électrique au charbon, c'est une grosse machine à vapeur, et des machines à pétrole et plus précisément des moteurs à combustion interne. En fait, ces deux machines-là, c'est elles les pièces essentielles de notre costume d'Iron Man. Effectivement, on utilise l'analogie d'Iron Man pour expliquer que grâce aux machines, alors qu'ils sont absolument partout autour de nous, hein, du camion au laminoir et du téléphone que je suis en train d'utiliser jusqu'à l'usine qui va produire les brosses à dents, eh bien, ces machines, elles ont démultiplié la puissance de l'homme, la puissance musculaire de l'homme, hein, par un facteur de plusieurs centaines. Elles nous permettent effectivement de voler, c'est l'avion, de soulever, c'est les grues, d'écraser, c'est les presses, etc. Et ces machines, on a su les multiplier et les rendre disponibles pour tout le monde. Précisément, c'est ça la mauvaise nouvelle, parce qu'on est sorti des énergies renouvelables qui étaient les énergies ordinaires de l'humanité jusqu'à il y a 2 siècles. Nos ancêtres lointains possédaient le vent qui a fait avancer les bateaux à voile, qui faisait tourner les moulins, possédaient l'eau qui faisait aussi tourner les moulins, possédaient le bois qui servait à se chauffer et qui a alimenté les premières forges à tel point qu'on a déforesté aussi pour partie en France à cause de ça. Et on est sorti des énergies renouvelables au moment où on a démarré la civilisation industrielle moderne. Donc garder la civilisation moderne, pardon, excusez-moi, le chat dans la gorge qui arrive au mauvais moment, donc garder cette civilisation industrielle tout en quittant les énergies fossiles, quand on regarde les choses d'un point de vue physique, on se rend compte que malheureusement ça va être plus vite dit que fait.
Oui, parce que c'est grâce à toutes ces machines, c'est un peu, dites-vous, comme si chaque terrien avait en moyenne 200 esclaves qui bossaient pour lui en permanence. Et en France et dans les pays développés, c'est beaucoup plus, hein, c'est 600 esclaves chacun.
Oui, alors ce multiple, il est là pour frapper les esprits, encore une fois, si on regarde la puissance de toutes les machines qui travaillent pour nous. Alors on peut prendre quelques exemples, on en prend quelques-uns dans le livre, on les a convertis en cyclistes. On regarde la puissance des jambes d'un cycliste et on regarde la puissance des machines qu'on utilise. Alors une machine que j'aime bien utiliser moi, c'est le mixeur à soupe. Vous savez, l'appareil qu'on met dans la soupe là et qui transforme les poireaux en gentille purée. Eh bien, cet appareil-là, quand on le met en route, c'est comme si on avait 4 cyclistes qui se mettaient à pédaler pour nous. C'est ça la puissance mécanique, ces 4 cyclistes, et plutôt 4 cyclistes bien entraînés. Hein. Quand on appuie sur le bouton d'un ascenseur, je suis sûr qu'il y en a quelques-uns dans la radio où vous travaillez, eh bien, c'est souvent ces 50 cyclistes qui se mettent à pédaler dans la cave pour faire monter l'ascenseur. Et si on prend les machines globalement qui travaillent pour nous, encore une fois, notre voiture, nos chaudières, nos tout, absolument tout, les bateaux... Eh bien, on se rend compte que ça démultiplie la puissance musculaire de l'humanité par 200. Ça, c'est au niveau mondial. Et comme la France possède une production, une consommation plus exactement supérieure à la moyenne, en France, un Français ordinaire, qui, comme chacun sait, n'existe pas, lui, c'est plutôt par 600 qu'il voit la puissance musculaire de la population démultipliée pour fabriquer les centaines de millions d'objets et de services qui sont aujourd'hui à notre disposition.
Jean-Marc Jancovici, c'est pour ça que la consommation d'énergie en 3 ou 4 générations a été multipliée par 10, hein, dites-vous, et la puissance des machines par 50. Et cette énergie est de plus en plus fossile, en dépit des résolutions des uns et des autres lors des COP successives. Pourquoi ?
Parce que ces énergies, elles sont considérablement, c'est ce que je disais à l'instant, les énergies fossiles, on est rentré dedans, donc on est sorti des énergies renouvelables au moment où on a démarré la civilisation industrielle, parce que les énergies fossiles sont considérablement plus denses que les énergies renouvelables. On a coutume de dire, par exemple, que l'énergie solaire qui arrive sur la Terre, chaque année, c'est 7000 fois la consommation d'énergie de l'humanité, ce qui est tout à fait vrai. À ceci près qu'en fait, la consommation d'énergie de l'humanité, c'est la consommation d'énergie des machines dont se sert l'humanité. Sauf que cette énergie solaire, elle arrive de manière très diffuse. Il y en a partout sur Terre, notamment sur les océans, c'est pas facile de la récupérer. Il y en a donc dans plein d'endroits. Si on regarde là où on habite, combien il en arrive, là, il y en a plus tant que ça. C'est assez diffus. Alors que l'énergie fossile, elle est extrêmement concentrée. Dans 1 litre d'essence, vous avez la même quantité de travail, la même capacité à transformer l'environnement que dans 10 à 100 de jours de travail de force d'un être humain, si on fait une conversion. Donc c'est très très dense, c'est très facile à extraire du sol, même si l'industrie pétrolière demande beaucoup de capitaux. C'est très facile à transporter parce que c'est liquide, notamment pour le pétrole. Alors le gaz et le charbon sont un peu moins faciles à transporter, mais plus que le vent ou le soleil, et beaucoup plus que l'électricité, qui peut par exemple pas traverser les continents. Et donc, les énergies fossiles, elles nous ont permis de mettre les machines à notre disposition indépendamment du lieu et indépendamment de l'heure. On voit bien, par exemple, avec le vent ou le soleil, que ça dépend des conditions. C'est plus facile d'avoir du soleil quand vous êtes dans le Sahara, où on n'habite pas, malheureusement, que quand vous êtes en Norvège. C'est plus facile d'avoir du vent quand le vent souffle que quand le vent souffle pas. Avec le pétrole, où que vous soyez, quelle que soit l'heure, vous pouvez en avoir. Et c'est ça qui a fait que nous avons basculé vers les énergies fossiles.
Le problème aujourd'hui, on le comprend bien, hein, c'est que notre monde de 7,5 milliards d'habitants, pour survivre, a besoin de plus en plus d'énergie et notre consommation d'énergie fossile émet de plus en plus de gaz à effet de serre qui réchauffe la planète. Pour les diviser par 3 d'ici 2050, dites-vous, il faudrait une pandémie de Covid chaque année. Je vous laisse réfléchir à ça, on fait une pause, on se retrouve juste après avec Jean-Marc Jancovici.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Le meilleur livre scientifique actuellement, c'est donc une bande dessinée, Le Monde sans fin, qui vient de paraître chez Dargo. C'est signé Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, qui est notre invité ce matin en direct sur Europe 1. Jean-Marc Jancovici, quand on lit ce livre, on se dit au fond qu'on ne peut pas faire autrement que de miser sur le nucléaire. C'est la seule solution à notre disposition, ça ou la pauvreté, le retour à la barbarie, Mad Max.
Alors, malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples que ça, sinon on n'y aurait pas passé 200 pages. Disons que ne pas miser sur le nucléaire, c'est augmenter la peine. C'est plutôt comme ça qu'il faut présenter les choses. Le nucléaire va nous fournir 5 à 10% mondialement de l'effort qu'il faut faire. En France, comme on a la chance d'avoir déjà un parc installé et comme on a déjà la chance d'avoir une filière, il est évident qu'il faut en profiter au maximum. Maintenant, même le nucléaire ne nous évitera pas ce qu'on appelle des efforts de sobriété. Il va falloir, par exemple, faire avec moins de voitures et avec plus de vélos et plus de bus et plus de trains et plus de marche à pied. Il va nous falloir faire avec moins de viande et plus, je dis pas de viande, hein, mais moins de viande et plus d'aliments végétaux. Il va nous falloir faire avec un urbanisme qu'on va devoir repenser. Les grosses villes, par exemple, sont tellement dépendantes de l'énergie abondante que de faire survivre une Île-de-France à 10 millions d'habitants dans un monde sobre en énergie, c'est une question qui se pose, hein. Aujourd'hui, c'est pas sûr que ça marche bien. Donc on va quand même, et tout ça, même avec le nucléaire, hein, même avec le nucléaire, faire de la chimie, plastique, etc., pas si simple que ça. Donc le nucléaire, il allège la peine, il nous facilite la vie, on va dire, mais ça ne remplace pas un plan d'ensemble qui est quelque chose qui aujourd'hui reste encore largement théorique et que les gouvernements, quels que soient les pays, hein, n'ont pas du tout réussi à imaginer, on va dire. Mais moins on en fait, plus on se complique la vie. Voilà.
Et pour cause, les gouvernements, ils n'ont qu'un mot à la bouche, c'est croissance, croissance, croissance.
Alors, ils n'ont qu'un mot à la bouche parce que ça fait 2 siècles que l'économie est en croissance rapide. Avant les combustibles fossiles, la croissance rapide, ça n'existait pas. Quand on regarde la façon dont la production a évolué, par exemple, au cours du Moyen-Âge, elle a augmenté très lentement. Donc, les techniques se sont un peu perfectionnées, mais elle a augmenté très lentement. Puis, quand vous aviez un grand coup de peste, la production diminuait rapidement parce qu'elle était, à l'époque, largement proportionnelle à la population et pas proportionnelle aux machines. Donc aujourd'hui, depuis 2 siècles, la croissance rapide est une évolution considérée comme classique. Et donc, sans se poser plus de questions, on se dit, bah, puisque c'était comme ça dans le passé, ça va continuer comme ça à l'avenir. Malheureusement, rien n'est moins sûr. Mais nos amis politiques, souvent, ils n'ont pas en tête les flux physiques sous-jacents. Ils pensent pas à la physique sous-jacente. Donc ils se disent, ça va continuer comme ça. Et ils se disent surtout, ça va continuer comme ça parce qu'ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, gérer un monde sans croissance, le monde politique n'y a pas réfléchi, le monde économique n'y a pas réfléchi, parce que les économistes dont on se moque un peu gentiment dans le livre, c'est pareil, ils ont pour beaucoup théorisé la façon de gérer le monde dans un monde où il y a de la croissance. Dans un monde où il n'y a pas de croissance, la boîte à outils est largement à inventer. Donc c'est la seule raison, vous savez, quand vous n'avez pas imaginé l'avenir avec une hypothèse de départ, vous n'en parlez pas, parce que du coup vous n'avez rien à proposer dans ce cas de figure-là.
Et gérer un monde sans énergie fossile, visiblement c'est tout aussi difficile. Alors Emmanuel Macron, cette semaine, a annoncé qu'il voulait construire de nouveaux réacteurs nucléaires. Immédiatement, on se dit, oh là là, le nucléaire c'est dangereux, il y a eu des accidents comme Tchernobyl ou Fukushima.
Alors, vous savez, vous connaissez cette blague classique, hein, la vie c'est très dangereux puisque tout le monde finit par en mourir. Oui, le nucléaire présente des risques, mais toute activité présente des risques. Vous savez, rester chez soi présente des risques. Il y a 20 000 morts domestiques chaque année. Des gens qui tombent dans les escaliers, qui s'électrocutent, qui tombent du toit, enfin, etc. Avoir une piscine, c'est dangereux, puisque vous avez quelques centaines de noyades par an et vous avez malheureusement quelques dizaines, je crois, de très jeunes enfants qui meurent chaque année en se noyant, en tombant dans des piscines. Conduire, c'est dangereux, c'est 3000 personnes ou 4000 personnes qui meurent chaque année. Donc en fait, tout est dangereux. Et la bonne question en ce qui concerne le nucléaire, c'est pas est-ce que c'est dangereux, puisque la réponse est oui, tout est dangereux. La bonne question, c'est est-ce que c'est plus ou moins dangereux que ce que ça remplace ? Et là, la bonne nouvelle, c'est que quand vous regardez la littérature scientifique et technique très abondante sur le sujet, la réponse, c'est globalement moins dangereux que n'importe quoi que ça peut remplacer. Je vais prendre un autre exemple. Le plus gros accident lié à une installation de production électrique dans le monde, c'est pas du tout l'accident de Fukushima ou l'accident de Tchernobyl en termes de nombre de morts, c'est une rupture de barrage. Une rupture de barrage, ça peut faire des milliers de morts, même des dizaines de milliers de morts. Donc c'est le nucléaire, encore une fois, c'est dangereux, mais globalement beaucoup moins que ce que ça remplace quand on regarde bien les chiffres.
Et les déchets nucléaires ?
Alors les déchets nucléaires, on en parle aussi dans le livre, c'est quelque chose... déchets nucléaires, c'est quelque chose qui fait très peur. Alors on se moque de nos propres peurs, parce que Christophe est quelqu'un qui, quand il était jeune, il habitait à côté d'une centrale nucléaire. Donc en fait, dans le dialogue qu'on a dans le livre, où on se met en scène nous-mêmes, hein, avec de temps en temps, on n'hésite pas à se moquer de nous. Moi, par exemple, à propos du nucléaire, je suis représenté en apôtre radioactif. c'est à ma demande, hein, voilà, on se taquine nous-mêmes, histoire de bien forcer le trait. Les déchets, on a l'impression que c'est un truc qui va sortir de terre tel Zébulon et foudroyer tout le monde. Alors en fait, c'est pas du tout ça, les déchets. La nature a fait pour nous une expérience de séquestration géologique des déchets. D'abord, ils sont en toute petite quantité, hein, la totalité des déchets que le parc nucléaire français a produit en 40 ans, les déchets très ennuyeux, hein, ceux qu'on appelle à haute activité et à longue durée de vie, ça tient dans une piscine olympique. Des piscines olympiques, il y en a plusieurs dizaines en France, je crois. Donc c'est ennuyeux, mais c'est pas monstrueux en termes de volume. Et par ailleurs, la séquestration géologique, la nature l'a mise en œuvre pour nous, toute seule, il y a 2 milliards d'années, à Oklo, au Gabon, il y a un réacteur qui a fonctionné naturellement, ce qui était possible à l'époque, et les déchets qui ont été produits par cette réaction nucléaire naturelle, pour l'essentiel, ils n'ont pas bougé de là où ils ont été produits, ce qui montre que, en 2 milliards d'années, hein, ce qui montre que la séquestration géologique, c'est quand même assez efficace. Donc, en tant que père de famille, si on me dit les déchets, on les met dans un grand trou à 400 mètres sous terre, c'est ça qu'on essaye d'expliquer dans le livre, il y a des tas d'autres problèmes qui me turlupinent beaucoup plus que ça.
Merci Jean-Marc Jancovici. Encore une fois, dans ce livre, absolument passionnant. Vous ne parlez pas que du nucléaire, vous traitez aussi la question de l'alimentation, c'est 25% de notre empreinte carbone, des transports qui utilisent 45 millions de tonnes de pétrole par an, rien qu'en France. Tout est abordé. Le livre est passionnant, Le Monde sans fin, ça vient de paraître chez Dargaud. C'est signé Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici. On fait une pause, on se retrouve juste après avec Sylvie Metelli.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
L'Union européenne est déterminée à infliger à la Biélorussie de nouvelles sanctions. Le régime d'Alexandre Loukachenko, poussant des milliers de migrants qu'il a fait acheminer du Moyen-Orient, notamment, à se masser à la frontière de la Pologne dans le but, selon le Conseil de sécurité de l'ONU, de, je cite, « déstabiliser la frontière extérieure de l'UE ». Sylvie Metelli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Les sanctions internationales ont l'avantage de faire plaisir, de ne pas coûter trop cher et de nous éviter d'intervenir militairement. Mais est-ce qu'elles ont la moindre efficacité ?
Alors, c'est une vraie question et c'est une question qui est posée depuis des décennies sans qu'il n'y ait réellement un accord entre tous les experts qui ont travaillé sur le sujet. Certains considérant que tôt ou tard, ça finit par marcher et que quand vous avez la volonté de renverser un régime, à force de le sanctionner et d'étouffer son économie, d'étrangler son économie, vous allez parvenir à vos fins. Et l'exemple qui est cité, c'est l'apartheid en Afrique du Sud et d'autres expliquant que, somme toute, il y a peut-être bien d'autres phénomènes qui ont conduit à faire plier le gouvernement ou à en finir avec l'apartheid que les seules sanctions. Donc c'est encore une fois un vrai sujet. Objectivement parlant, ces sanctions économiques, surtout avant qu'elles ne soient ciblées, elles sont peut-être plus efficaces depuis qu'elles sont ciblées, et encore ça se discute, avant qu'elles ne soient ciblées, elles avaient un coût qui était quand même phénoménal pour les populations. Rappelez-vous les sanctions en Iran qui avaient conduit à la mise en place d'un système pétrole contre nourriture, tant la population irakienne et iranienne, puisque ce type de sanctions a été appliqué aux deux pays, avait été pénalisée par les sanctions.
Et très souvent, ça resserre les liens d'ailleurs entre la population et le régime au pouvoir.
Oui, tout à fait. Ça a très souvent un effet contre-productif au sens où finalement c'est perçu par la population comme de l'ingérence, comme la volonté d'aller contre non pas seulement le gouvernement mais contre le pays. Et donc ça stimule un certain nationalisme, un ralliement autour du drapeau. C'est le terme qui est souvent pris par les experts qui analysent tout ça. Et ça réduit l'efficacité des sanctions. Il y a un deuxième effet qui est très rarement évoqué, c'est également que ça peut renforcer les alliances. On l'a vu, la Chine, par exemple, dans sa relation avec l'Iran, a eu tendance à renforcer sa relation avec l'Iran, naturellement ou volontairement, à partir du moment où on instaurait des sanctions contre l'Iran, parce que l'Iran avait besoin d'exporter son pétrole, l'exporter à des conditions qui étaient tout à fait avantageuses, et la Chine ne se privait pas d'importer le pétrole iranien en son temps. Donc il y a ces deux effets qui peuvent effectivement réduire l'efficacité des sanctions. Et comme vous le disiez au tout début de notre entretien, ces sanctions, en fait, c'est un peu la voie de la facilité quand on ne veut pas aller au conflit, mais on veut quand même marquer le coup. Donc, malgré tout, c'est un aveu de faiblesse quand on impose des sanctions, l'aveu de faiblesse qu'on ne peut pas faire autre chose, qu'on ne veut pas rentrer en conflit. Et donc, de fait, c'est extrêmement contre-productif pour les entités qui sanctionnent et ça renforce les entités qui sont sanctionnées.
L'Union européenne organise actuellement des régimes de sanctions contre une trentaine de pays et d'acteurs internationaux. Les États-Unis en sont à 32. Mais comme vous venez de le dire, pour espérer que ce soit efficace, il faut que les sanctions soient appliquées par l'ensemble des partenaires économiques de l'État sanctionné. Sinon, ce sera facilement contourné par la Russie, par exemple, dans le cas de la Biélorussie, ou, vous l'avez dit, par la Chine, dans le cas de l'Iran.
Oui, tout à fait. Surtout dans un monde qui est devenu global, en fait, et où les flux commerciaux s'échangent et naviguent sur l'ensemble de la planète, il est extrêmement facile pour un pays sanctionné de se procurer les biens auxquels il n'a pas accès par d'autres canaux que les canaux initiaux, bien évidemment, et ça n'a donc de ce fait aucun effet. Et ce qu'il faut bien voir aussi sur les sanctions, c'est que c'est une pratique qui est très estampillée pays occidentaux. occidentaux. Les autres pays sanctionnent assez peu en réalité. La Chine, la Russie, ou ce ne sont pas dans leurs habitudes. Ces pays-là peuvent contre-sanctionner, c'est-à-dire quand une sanction est imposée, ils réagissent. Donc il y a un effet de rétorsion qui est aussi un effet qui réduit l'efficacité des sanctions, parce qu'au fond, vous sanctionnez, mais vous allez en retour, vous prenez le risque en retour d'être sanctionné à votre tour. Donc encore une fois, c'est effectivement quelque chose qui est relativement peu efficace dans les faits.
Et alors c'est d'autant plus bizarre que, comme vous venez de le dire, ce sont surtout les pays occidentaux qui adoptent des sanctions internationales, parce que les sanctions sont beaucoup plus efficaces contre une démocratie que contre un régime autocratique. Le régime autocratique étant peu soucieux du bien-être de sa population.
Oui, très clairement, même si ça pèse, alors ça peut peser... au tout départ, quand il y a une opposition et quand, comme dans le cas de la Biélorussie, en fait, hein, on a contesté une élection, il y a eu des contestations internes. Mais c'est vrai que plus les sanctions perdurent dans le temps et moins elles sont efficaces, parce que on oublie la raison initiale pour laquelle elles ont été imposées et au fond, on se rallie plus facilement auprès du leader qui est attaqué, parce qu'on considère que c'est le pays qui est attaqué. Dans le cas des démocraties, on a moins cet effet-là, parce que les sanctions, si elles pèsent véritablement sur l'économie, elles conduisent à réduire le soutien des sociétés civiles et des opinions publiques dans le pays. Peut-être un élément qu'on n'a pas, on a parlé des sanctions. C'est vrai que ce sont plutôt les pays occidentaux qui imposent des sanctions, mais dans ce cas-là, ce sont des sanctions bilatérales, c'est-à-dire ou unilatérales, des sanctions d'un pays ou d'un groupe de pays à l'encontre d'un autre. Faut pas oublier qu'il y a aussi un régime de sanctions au sein des Nations Unies. Et là, ce sont des sanctions multilatérales qui sont votées au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et en général, quand des sanctions des Nations Unies sont imposées, elles sont imposées avec l'aval de l'ensemble de la communauté internationale, ou en tout cas de la très grande majorité de la communauté internationale, et aucun veto de la part des membres permanents du Conseil de sécurité. Donc il faut bien faire la distinction entre ces deux types de sanctions. C'est fondamental, en fait.
On fait une pause, Sylvie Mattelli, on se retrouve juste après.
Europe 1,
c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Les sanctions internationales, comme celles dont l'Union européenne menace la Biélorussie, sont-elles efficaces? On en parle avec Sylvie Mattelli, qui est directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. On a l'impression que pour que ces sanctions soient efficaces, il faut que le régime visé soit faible. Est-ce que c'est le cas?
Ça n'est pas forcément le cas, c'est pas lié à la force ou à la faiblesse du régime. Simplement, pour que ces sanctions soient efficaces, c'est comme tout. La seule chose qui fonctionne dans les relations internationales, c'est la négociation. Et pour garantir la négociation ou la violence et la guerre. Mais si on reste dans une logique de négociation, puisque l'objectif des sanctions, c'est quand même d'éviter un conflit dur, eh bien si on reste dans une logique de négociation, il faut avoir des choses à négocier. Et là où on s'aperçoit que les sanctions sont efficaces, quand elles sont imposées dans un premier temps, avec l'idée de se donner des marges de manœuvre, de se donner des moyens d'aller négocier un assouplissement des sanctions, par exemple. C'est quelque chose qu'a pratiqué de manière très très claire Barack Obama pendant ses deux mandats, avec un premier mandat où il a sanctionné à tout craint, et un deuxième mandat où il est allé négocier avec les Birmans, avec les Iraniens, et progressivement il a levé les sanctions. Et là, c'est vrai que pour probablement l'une des toutes premières fois dans notre histoire moderne, on a vu des sanctions qui semblaient fonctionner, mais qui semblaient fonctionner pas tant du fait des sanctions, mais parce qu'à un moment donné, elles conduisaient les parties autour de la table, elles conduisaient les parties à négocier, et on arrivait à un accord.
Parce que sinon, c'est vrai qu'on a calculé qu'en moyenne, les sanctions, ça dure 16 ans. 16 ans, c'est très très long. Hein. Et soit l'État visé finit par céder, soit on finit par lever les sanctions parce qu'on se dit de toute façon ça sert à rien.
Ben oui, complètement. Oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est plus souvent ce qui se passe. C'est-à-dire, au bout de 16 ans, au fond, l'État, le pays s'est adapté aux sanctions. Soit s'est adapté par le bas, à la pénurie, et à la pénurie de biens sanctionnés. Soit s'est adapté par le haut, et a développé ses propres productions, a développé ses propres canaux d'approvisionnement. Et donc, la sanction n'a plus aucun sens, en fait. Elle est là parce qu'il faut qu'elle soit là, parce qu'on doit sanctionner un comportement répréhensible, qui ne respecte pas le droit international. Mais au fond, elle n'a aucun effet. Il y a un autre élément qu'on n'a pas évoqué dans les sanctions, c'est l'exemple. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit qu'on sanctionne pas tellement pour faire plier un régime pour le pousser à changer, mais parce qu'il y a un certain nombre de pratiques qui ne peuvent pas être acceptées, qui vont à l'encontre du droit international, et donc on sanctionne un pays pour dissuader tout autre pays de pratiquer de la sorte.
Le fait de résister aux sanctions internationales, ça vous conforte dans une image de dur aussi. Ça a été le cas de Cuba, du Cuba de Castro, mais aussi de la Russie de Vladimir Poutine.
Quand vous êtes un leader politique qui s'oppose à un moment donné à un notre pays ou à la communauté internationale, il est bien évident que vous décrédibiliseriez complètement si vous veniez à céder aux sanctions. Et c'est en ça que les pays qui sanctionnent doivent comprendre à quoi servent les sanctions. C'est-à-dire les sanctions, elles servent, encore une fois, à se donner des marges de manœuvre pour aller négocier ensuite. Parce que si c'est juste sanctionner pour sanctionner en espérant que vous allez faire plier un chef d'État qui, de toute façon, profite de la sanction pour se renforcer, bien vous vous leurrez complètement. Et vous prenez le risque que ça n'ait aucun effet, si ce n'est des effets rétroactifs sur vous et votre propre pays.
Parce que vous l'avez dit, en fait, plus ça oblige l'État sanctionné à s'autosuffire en développant, oui, alors, par exemple, son agriculture ou son industrie.
Tout à fait. C'est quelque chose qui a été très clair dans le cas de la Russie. On a vu la Russie développer ou redévelopper et moderniser son agriculture en réponse aux sanctions européennes et américaines il y a quelques années. Donc très clairement, on est dans une... Au fil du temps, en fait, on s'adapte à la sanction, on s'organise face à la sanction, et donc la sanction n'a plus aucun sens.
En résumé donc, les sanctions ont peu de conséquences sur un État qui se veut dur, un État qui est stable, un État qui est autocratique et un État qui est hostile.
On peut résumer comme ça.
Ce qui ne nous rend pas tellement optimistes en ce qui concerne le régime de Loukachenko.
Non, sauf, encore une fois, si à un moment donné, on pratique autrement, c'est-à-dire on se dit, bon, bah, une fois qu'on a sanctionné, on peut continuer à sanctionner ad vitam aeternam, c'est clair, mais sans effet, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à les négocier? Et au fond, une fois que vous avez imposé des sanctions, bah, vous avez quand même de quoi négocier. Déjà, ne serait-ce que la levée de toute ou partie des sanctions, moyennant des concessions de la part du gouvernant en question.
Merci Sylvie Matelli pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques.
Merci à vous, très bonne journée.
On se retrouve dans un instant avec Bruno Gassio et Philippe Giangreco, les deux auteurs et interprètes de la pièce Les Pâtes à l'ail.
9h-10h, c'est arrivé cette semaine.
Frédéric Taddeï.
Bruno Gassio et Philippe Giangreco, bonjour. Vous
bonjour.
Reprenez Les Pâtes à l'ail au Café de la Gare les vendredis et samedis à 21h. À ne pas confondre, parce que quand on va sur Internet, on peut croire que c'est à la scène parisienne, les jeux de vendredis et samedis à 19h. Non,
non, ça c'était il y a deux ans.
Ouais, alors la scène parisienne n'existe plus.
Oui, les enfants du paradis. Les enfants du paradis, je crois.
Vous reconnaissez que quand on cherche, on peut tomber à côté.
Ah, hein. Mais on reconnaît alors, toujours nous, quand on est accusé.
D'où une des raisons pour lesquelles on est ici, c'est pour faire savoir qu'il y a des grosses erreurs.
Oui.
Et que si c'était possible de les rectifier, voilà.
Et si les gens pouvaient venir dans la bonne salle, voilà, à la bonne heure, ce serait mieux. Une pièce donc que vous avez créée fin 2019, pendant les grèves des transports. Ce n'était pas de la tarte à l'époque. Ensuite, il y a eu le Covid qui a brisé votre élan. Et vous n'avez pas l'impression que c'est une pièce maudite et que vous devez vous demander ce qui va devenir la perturbée cette fois-ci, non ?
C'est-à-dire qu'il y avait quand même pas mal de pièces qui se lançaient à l'époque. On en faisait partie, mais non, elle n'est pas du tout maudite. Mais c'est vrai qu'on a eu... On a joué de malchance, comme on dit.
On a un peu joué de malchance, mais en même temps, c'est super rigolo. Parce que quand nous, on a fait cette pièce, en fait, on a fait ça en se disant on a 62 piges tous les deux, on va pas devenir des jeunes premiers maintenant, c'est fini, donc on s'est dit que du plaisir. Il faut vraiment qu'on s'amuse à faire ça. Et depuis deux ans, on s'amuse pas du tout. C'est qu'on se chope les grèves, on les gilets jaunes... J'étais avec eux, je manifestais avec eux, je n'allais pas non plus les critiquer. Mais enfin, ils m'ont vidé la salle. Moi, petit commerçant, je me suis retrouvé qu'une salle vide.
Moi aussi, je les critiquais.
Hein. Ah ouais, lui critiquait, ouais. On n'est pas toujours d'accord. Et quand on s'est retrouvé premier confinement, on s'est dit, bon, bah, la tournée va être annulée, visiblement. On s'est pris 60 dates dans la tête, terminé. Et puis 21, on s'est dit, bon, ça va aller, 21, c'est bon, il nous avait dit un an. Pouf, on en a repris un sur la tronche. Et là... On était tellement, mais pendus, on a demandé au Café de la Gare, on ne pouvait pas nous trouver une ou deux dates C'est pour rester propre.
Jusque fin décembre, quand voilà. même. Hein, oui, on a peu de temps. Un peu de temps. C'est une pièce sur l'amitié. Ce sont deux vieux amis d'enfance qui se retrouvent chaque mois pour refaire le monde en mangeant des pâtes à l'ail. C'est un peu votre histoire. Hein. Mais pourquoi vous les avez appelés Carlo et Vincenzo ? Pourquoi vous en avez fait deux Italiens ?
Parce qu'en fait, nous sommes Italiens. Et Carlo, c'est son papa. Vincenzo, c'est mon père. Ils se connaissaient.
Ouais, parce que vous connaissez vraiment depuis
toujours. Mon père était concierge dans une petite ouvrière où Bruno habitait et ma mère l'a gardé quand il avait 5 mois, donc j'en avais 3.
Oui, vous connaissez bien quoi.
Oui, bien. Oui.
C'est difficile de traduire l'amitié au théâtre comme au cinéma. L'amour c'est facile, on se dit qu'on s'aime et on s'embrasse et le tour est joué. Mais l'amitié c'est moins spectaculaire.
Alors c'est tout à fait exact. Et quand on a fini d'écrire la pièce, je ne sais pas faire grand chose dans ma vie, mais je sais reconnaître un bon texte et on s'est dit c'est plutôt pas mal. À qui on le donne ? Et moi, je voulais le donner à qui ? Arditi, toi, va donner ça à des vieilles personnes qui vont jouer ça super bien avec leur diction parfaite. Et Jean-Carole Larrivé, qui est le metteur en scène et le co-auteur aussi, il nous a dit non, il y a un truc que vous ne pouvez pas jouer, c'est la réalité de votre relation. Et effectivement, sur scène, en fait, on force pas,
curieusement. Je trouve ça vachement plus agréable. Enfin, on est très pudique dans la vraie vie.
Ah oui.
On se parle très peu. Enfin, on se parle bien entendu quand on a des emmerdes.
Je
tout
ne
ça,
connais
mais,
pas cette personne.
Mais dans cette pièce, on se dit des choses qu'on ne se dirait jamais dans la vie.
Oui.
Et c'est plutôt très agréable, je trouve.
Mais c'est pour ça, à mon avis, qu'au cinéma comme au théâtre, et dans cette pièce en particulier, on se pose toujours la même question. Jusqu'où est-on capable d'aller par amitié ?
Voilà. Bah là, c'est le vrai thème de la pièce.
C'est le vrai thème de la pièce, mais il ne peut pas y en avoir d'autres, au fond. Il ne peut pas y en avoir d'autres, sinon il n'y aurait pas d'amitié.
La réponse, s'il y en a une, je ne veux pas spoiler, on dit maintenant, donc raconter la fin, on va dire, c'est le thème, c'est est-ce que briser une amitié pour sauver quelqu'un n'est pas la meilleure preuve d'amitié ? C'est d'aller jusqu'à là, quoi. Et à quel moment l'autre se rend compte que tu t'es foutu de ma gueule ?
Ouais.
Et c'est tout une heure et demie de ça, quoi. C'est une heure et demie
de chat et
de souris.
Parce qu'en l'occurrence, ça, on peut le dire, l'un des deux annonce à l'autre qu'il a un cancer, qu'il lui reste 6 mois à vivre, et que par peur de la déchéance, il demande à son ami de le tuer. C'est
oui.
vous hein, qui...
C'est moi, oui. Ouais.
Pourquoi vous ne le faites pas vous-même, d'ailleurs hein au lieu de prendre le risque que son ami sorte ensuite accusé de meurtre, vous avez un cancer, vous n'êtes pas tétraplégique, vous n'êtes pas grand grabateur, faites le boulot vous-même.
Non, mais j'essaie tout un peu vrai. Avant, mais comme je ne lui ai pas dit au revoir, je lui dis finalement, comme on est là tous les deux, tu vas le faire. Voilà.
Non, mais il y a une lâcheté aussi à ce moment-là, c'est toute l'interrogation.
Oui, puis sinon, il n'y aurait pas de pièce.
Mais je participe à l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, et tu as tout un tas de questionnements qui arrivent au dernier moment, parce que intellectuellement aujourd'hui je peux me dire ok, j'accepte de signer les directives et tout ça, et de dire non seulement vous me débranchez, ce que la loi Leonetti permet, mais en plus vous m'injectez le pentobarbital de sodium pour que ça s'arrête.
Mais vous ne demandez pas que votre meilleur ami vienne vous mettre un
normalement
flingue,
non, mais ça fait partie des contradictions et ça fait partie des choses qui arrivent au dernier moment, c'est-à-dire on se dit je change d'avis. Non, je ne veux pas. Et c'est toutes ces choses-là qui sont délicates à développer.
L'un, c'est vous, Philippe Biancreco, oui. Est père de 2 enfants, il est toujours amoureux de sa femme. L'autre, Bruno Gassio, est un coureur, un éternel célibataire. Vous n'êtes pas fatigué pour distribuer les rôles, visiblement, vous auriez pu faire l'inverse, ça aurait été plus marrant.
C'est-à-dire que dans la vraie vie, lui est marié.
Et fidèle, et vous êtes plutôt coureur.
Non, pas du tout, je ne suis pas coureur. Non.
Oui, enfin, je n'assume même pas une seconde.
Je l'ai été beaucoup.
Oui.
Mais c'est vrai, j'ai 3 enfants avec 3 femmes différentes, 2 petits-enfants. Voilà. J'ai une vie bien.
T'as une vie.
Oui, large.
Mais bon, la question que vous posez dans la pièce, c'est quand on est infidèle en amour, est-ce qu'on peut être fidèle en amitié ?
Je crois que.
La preuve, ouais.
Oui.
C'est vachement plus facile d'être fidèle en amitié. On ne demande pas une preuve d'amitié perpétuelle. On peut demander une preuve d'amitié tous les 4 ans, 5 ans. J'ai un problème, ouais, le mec arrive. En amour, c'est vachement plus compliqué. Si toutes les semaines, on n'a pas une petite preuve d'amour, ça s'étiole. L'amitié, non. Nous, quand on...
Quand
chaque fois que tu as fait des
femmes, femme, par exemple, vous partez un an et vous revenez et vous la saluez comme si vous l'aviez vue hier, c'est pas possible.
Non.
Avec un ami, c'est possible. Parce qu'avec un ami, c'est comme si, avec Bruno, parfois on se laisse pendant un moment, on se retrouve comme si on s'était quitté la veille, mais avec une femme, c'est impossible.
Cette pièce est aussi l'occasion pour eux de se révéler des choses qu'ils ne se sont jamais dites. C'est souvent comme ça d'ailleurs au théâtre et au cinéma en France ces derniers temps. Vous mettez dans une pièce un groupe d'amis, ils se mettent à se confesser. Et je me demande si ce n'est pas l'influence de la télé-réalité, vous avez remarqué ?
Il y a quand même une situation un peu particulière ce soir-là. Or du coup, on se livre un peu plus, on se dit un peu plus de choses. Mais ça reste souvent très léger hein, quand on se retrouve entre amis. C'est rarement des choses profondes, je trouve.
Oui, effectivement, enfin, à part dans la fiction.
Voilà, à part dans la fiction, justement.
Ça sert à ça, la fiction, oui, c'est de se dire quelle question je poserai jamais. Et dans la fiction, l'avantage, c'est qu'on a le temps d'y réfléchir. Dans une soirée, à un moment, on fume une clope, on ouvre une bouteille, on parle d'autre chose, il y a un oiseau qui passe, un pigeon qui vient s'écraser contre la vitre, on parle d'autre chose. Dans une pièce, on réfléchit. Qu'est-ce que je dirais à ce moment-là ? Donc on l'écrit, puis on revient dessus, puis on amende ce qu'on a écrit, on le donne à quelqu'un d'autre qui dit « Ah, tu vois, là, le personnage, s'il disait ça, c'est la différence qu'il y a entre un dialogue et un bavardage. » Donc on essaye d'optimiser le nombre de mots qu'on a en une heure et demie pour raconter une vie.
Philippe Giangreco, vous êtes d'accord ?
Moi, je suis d'accord. Et puis, c'est vrai que quand on a écrit cette pièce, c'est quelque chose que... Comme on est trois à savoir un tout petit peu écrire et puis à lire, surtout, on a lu beaucoup.
Avec Jean-Carole Larrivé.
Avec Jean-Carole Larrivé, qui est à la fois notre co-auteur et notre metteur en scène, qui nous a d'ailleurs vraiment enlevé toute cette pudeur qu'on avait entre nous. Mmh. Parce que si on était restés que tous les deux, on aurait chanté des chansons italiennes et bouffé des pâtes, ça aurait fait chier les gens au bout de deux jours. Mais bon, c'est ce qu'on aurait fait.
Qu'est-ce qu'on pensait ? Peut-être qu'on serait plein.
Ouais, peut-être, remarque, j'en sais rien, c'est vrai.
Ce qui est drôle, c'est que vous êtes acteur ni l'un ni l'autre. Vous êtes des auteurs. Hein, oui. Et vous avez beau vous fréquenter depuis 62 ans. Jouer sur scène une pièce de théâtre, c'est faire un nouveau métier. Ça n'a pas changé vos rapports ?
Alors moi, déjà, j'ai joué longtemps parce que j'ai deux théâtres à Lyon. C'est pas grave.
Oh, je savais pas, excusez-moi.
Non, mais en fait, je voulais pas du café théâtre. Mais alors, avec Bruno, je suis venu le voir il y a 5 ans, et je lui ai dit, ou 4 ans, et je lui ai dit, Bruno, on a tout fait ensemble, parce qu'on a fait beaucoup de choses ensemble, mais on n'a jamais joué. Alors que Bruno, il a joué jeune aussi, il a fait le café théâtre, il a fait du café théâtre, il a fait Bouvard, tout ça, machin. Moi, j'avais joué de
oui,
mon côté.
C'était dans le petit théâtre de Bouvard.
Voilà. Ouais, alors, ouais, je lui ai dit, il faut qu'on se retrouve autour de. Au début, il m'a dit non, machin et tout. Puis après, ça l'a quand même un peu travaillé. Et puis, il m'a dit, bon, il faudrait qu'on avance. Mais on n'avançait pas. Du coup, Jean-Carlo est arrivé. Alors, on n'est pas vraiment des comédiens. On joue des choses assez proches de nous. Hein. Mais moi, au café théâtre, voilà, j'ai joué longtemps. Mais bon, j'étais pas vraiment.
Non, mais on n'a pas besoin. Je crois que c'est ça que Jean-Carole voulait dire quand il disait « filez pas la pièce à Arditi
oui. ».
C'est que même Arditi ne trouvera pas cette réalité d'amitié entre deux personnes. Il ne la trouvera pas. Il l'inventera, il la jouera probablement bien,
oui.
Mais on n'aura pas cette sincérité qui est... Nous, parfois, on bafouille, on se plante, mais chaque fois que je vois le truc, il y a une sincérité qui me touche moi-même. Voilà, je me touche moi-même.
Et puis de toute façon, c'est la mode, on veut de la réalité plus que de la fiction aujourd'hui, non ?
La télé-réalité.
C'est-à-dire que moi j'adore voir un film qui est tiré d'une histoire vraie,
voilà.
Ça me plaît. Ou un bouquin. Ou,
tout est tiré d'une histoire vraie maintenant.
C'est vrai, il y a beaucoup de choses qui sont tirées d'une histoire vraie. Mais est-ce que tout n'est pas vrai finalement ?
Sans doute. Les patalailles, en tout cas, c'est vrai. C'est donc au Café de la Gare et pas à la scène parisienne. C'est le vendredi et le samedi à 21h. Bonne chance pour ce soir.
Merci.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé cette semaine, arrive à son terme. On se retrouve demain dans C'est arrivé demain, où les belles répétitions. Pierre de Villeneuve est face à moi. Dans quelques instants, ce seront les grandes voix d'Europe 1. Quel est votre programme ?
Eh bien, on va se demander qui est derrière cette attaque humanitaire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie. On va se demander qui est véritablement Emmanuel Macron, ou en tout cas, quel costume porte-t-il en ce moment. Et on va se demander qui a gagné le débat des LR lundi dernier.
Eh bien, bonne émission.
Merci.